Microcité.
Une émission de l'école de journalisme de Grenoble.
Sur Campus Grenoble 90.8.
16h30, 17h.
Aurélia Valarié.
Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8. Il est 16h30 et c'est le début de votre émission d'information hebdomadaire. Alors au programme aujourd'hui, notre dossier préparé par Xavier Ponroy et Julien Penaud. Un an après les mouvements MeToo ou encore Balance ton porc, la justice est-elle adaptée à l'augmentation du nombre de plaintes pour violences sexuelles? A-t-elle les moyens de faire face à toutes ces revendications? Réponse en deuxième partie d'émission avec nos invités en studio. Puis place à notre grand format, notre reporter Luc Chemla n'a pas hésité à se mouiller pour vous cette semaine. Il a suivi un cours de natation proposé par l'association grenobloise Tremplin Handisport. Créée il y a un an, elle propose des activités sportives aux enfants atteints de handicap moteur et sensoriel. Merci de nous écouter sur Radio Campus. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et à réagir sur Twitter avec le hashtag Microcité. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h et Microcité, ça commence maintenant. Et comme chaque semaine, nous commençons avec notre journal. Bonjour Léo.
Bonjour Aurélien.
Point sur l'actualité.
Au sommaire de ce journal, la marche contre les violences sexistes et sexuelles. Elle a lieu demain un peu partout en France. On entendra Colline Bourret, l'une des organisatrices à Grenoble. Les rodéos urbains continuent d'empoisonner la vie des habitants des Chirolles. La mairie promet des mesures importantes. Les promotions du Black Friday ne rassemblent pas tout le monde. À Grenoble, certains préfèrent le Green Friday, un événement alternatif contre la surconsommation. Les internationaux de patinage, loin des stars Papadakis et Cizeron, un jeune échirolois, Kevin Emoz, il s'est confié sur ses ambitions à Alexandre Lepère.
Microcité.
Dire stop aux violences sexistes et sexuelles, c'est l'objectif de la marche féministe qui a lieu demain un peu partout en France. 160 000 femmes ont signé l'appel à manifester sur Internet avec le hashtag Nous Toutes. Luc Chemla a rencontré Colline Bourret. Elle est membre du collectif Nous Toutes 38 et l'une des organisatrices de la manifestation à Grenoble.
L'objectif aujourd'hui, c'est de dire en fait, que les violences qui existent ne sont plus acceptables. Après MeToo, un an après MeToo, qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit? Aujourd'hui, en fait, on parle très peu des violences faites aux femmes et très peu de personnes sont au courant des chiffres. Il y a quand même une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son mari. Il y a plus de 220 femmes qui sont violées chaque jour. C'est-à-dire que pendant le temps de cette interview, il y a au moins une femme qui a été violée en France. C'est des chiffres qui sont énormes. Là, faut juste dire que l'impunité, elle doit cesser et que la honte, elle doit changer de camp. C'est aux agresseurs, c'est aux harceleurs, c'est aux violeurs, c'est aux personnes qui battent leur femme de se cacher et d'avoir honte de ce qu'elle fait parce qu'aujourd'hui, on cautionne encore ces violences. C'est pas normal et là, vraiment, il est temps qu'il y ait des véritables mesures qui soient prises. L'objectif, c'est juste de dire, en fait, on est là. Toutes ces personnes qu'on invisibilise, elles sont là et aujourd'hui, elles se réapproprient le message que ça suffit.
Colline Bourret au micro de Luc Chemla. Demain à Grenoble, la marche partira du Jardin de Ville à 15h. Et aujourd'hui, dans une tribune publiée par France Info, 409 femmes journalistes appellent à donner une grande ampleur à la mobilisation de demain. Elles dénoncent le sexisme et les violences sexuelles au sein des rédactions, mais aussi les inégalités entre femmes et hommes journalistes. Je vous rappelle que le débat de Microcité, dans une dizaine de minutes, traitera de la question des moyens de la justice face aux violences sexistes et sexuelles.
Les gilets jaunes ne décollèrent pas, Léo.
200 d'entre eux sont actuellement rassemblés place de Verdun à Grenoble devant la préfecture de l'Isère. Ils ont été bloqués par des CRS qui ont notamment utilisé du gaz lacrymogène. Et après les manifestations de la semaine dernière qui avaient rassemblé 282 000 personnes contre la hausse des prix de l'essence, le mouvement sera demain sur le Champ de Mars à Paris. Le gouvernement tente le compromis, en tout cas, François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, a confirmé aujourd'hui le maintien de la hausse des taxes sur les carburants. En revanche, selon France Info, l'exécutif ne veut pas se mettre les poids lourds à dos. La vignette poids lourd va être reportée, on l'a appris hier. Cette taxe, destinée à financer des infrastructures routières et ferroviaires, sera présentée en 2020 et non plus en début d'année prochaine. Enfin, le président Emmanuel Macron annoncera mardi des mesures d'aide et de possibles négociations sur les taxes écologiques.
Le fléau des rodéos urbains préoccupe toujours les Chirolles.
Pas un jour ne passe sans que des bruits de moteurs résonnent dans les avenues des Chirolles. Sur leurs motos, roues avant levées, déambulant sur les lignes de tramway et de trottoirs, des jeunes pratiquent le rodéo motorisé. Un fléau pour les habitants et un défi pour la mairie. Aurélia, vous vous êtes penchée sur cet épineux dossier.
Ce bruit de moteur qui ronfle, c'est devenu un bruit de fond quotidien pour les habitants des Chirolles qui balancent entre colère et inquiétude.
ça fait du bruit. On est obligé de mettre la télé plus fort, on est obligé de fermer les fenêtres. C'est vraiment pénible.
Rouler à cette vitesse, c'est irresponsable. En plus, là, c'est la sortie des classes. Donc, il peut y avoir n'importe qui traverse la route. Pas très malin.
Pour faire face à ces rodéos, la commune n'a pas lésiné sur les moyens. Vidéoprotection, base de données mutualisée et même un hélicoptère de la gendarmerie pour traquer ces jeunes motards. Thierry Monel, premier adjoint à la mairie des Chirolles.
Devant l'impuissance qui était la nôtre de pouvoir vraiment traiter ces sujets, on met le paquet et on continuera à le mettre. L'idée, c'est pas que tous les jeunes, on les envoie en prison. C'est de faire en sorte qu'il y ait des peines exemplaires et que les autres se disent, bon allez, on va se calmer un peu.
Des sanctions existent en France depuis 4 mois. Une peine de prison ferme a déjà été prononcée dans les Yvelines. À Échirolles, 50 dossiers ont fait l'objet d'une poursuite judiciaire. Mais pas encore de quoi convaincre ces adolescents de descendre de leur moto.
Et la police, normalement, elle devrait comprendre. Hein. On fait rien de mal, il y a juste la moto, c'est tout.
Bah maintenant, ils disent qu'on risque de la prison pour une moto. Je sais pas, c'est bizarre un peu. On n'est pas trop conscients, c'est vrai, mais on s'amuse comme ça, nous.
Reste que le nombre de ces rodéos a diminué depuis quelques semaines, peut-être grâce à cette politique de la ville, mais peut-être aussi grâce à l'arrivée de l'hiver, comme le pensent certains habitants.
Et d'ailleurs, Aurélia, un policier grenoblois, a lancé une application dédiée à ces rodéos urbains. Elle attend la validation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
C'est bien ça, Léo.
À Grenoble, vous l'avez peut-être expérimenté, bus et tramway ont cessé de fonctionner entre 13 et 14 heures aujourd'hui. Une mesure mise en place par la Semitag, la société de transport grenoblois, elle proteste contre les violences sur les chauffeurs en hausse depuis plusieurs semaines. Ibrahim Maalouf, condamné à 4 mois de prison avec sursis, le célèbre trompettiste franco-libanais, César de la meilleure musique de film en 2017, était jugé pour agression sexuelle sur une fille de 14 ans. Les faits remontent à 2013. Ibrahim Maalouf est accusé d'avoir embrassé de force et a touché la plaignante.
Et il n'y aura pas que le Black Friday aujourd'hui, Léo.
Vous serez peut-être dans les magasins ce week-end pour le Black Friday, cette opération de promotion monstre venue des États-Unis, mais certains grenoblois la boycottent et vont mettre en place un Green Friday, un événement alternatif qui veut sensibiliser à la surconsommation et qui prône la réutilisation. Rudy Pupin.
Troquer pour ne pas surconsommer, l'association environnementale Agir Alternative propose aujourd'hui son Green Friday sur le campus universitaire. Un concept simple, échanger vêtements et autres objets pour les réutiliser. Nina Watson, sa présidente, veut sensibiliser.
On pourrait vraiment changer nos logiques de consommation et nos logiques de production, mais nos logiques de production répondent à des logiques de consommation. Donc ça commence tout d'abord par le citoyen lambda qui décide de ne pas acheter 36 t-shirts par an, produits dans des circonstances horribles, que ce soit sociales ou environnementales.
Les associations ne sont pas les seules à organiser un Green Friday. Le magasin grenoblois Natura Vélo reversera, lui, 15% des bénéfices de la journée à une association zéro déchet. Pour la vendeuse Carole Pic, les commerçants doivent aussi avoir une part de responsabilité.
Faire des promos monstres pour créer du besoin qui n'existe pas forcément. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal parce qu'on participe à la consommation aussi. Mais on essaie de faire ça de façon intelligente. Réparer plutôt que de jeter ou de pousser à consommer.
Ces initiatives plaisent d'ailleurs aux clients comme Marie, sensible à la cause environnementale.
Il faut absolument arrêter de consommer puis de transformer tout en ordures parce qu'un jour, on sera noyé sous les ordures. C'est tout ce qui va arriver.
Cette année, plus de la moitié des Français comptent profiter des promotions du Black Friday.
Rudy Pupin pour Microcité. Et dans une heure, un rassemblement contre le Black Friday aura lieu place Félix Poula à Grenoble. À l'initiative de l'association Il est encore temps. Les meilleurs patineurs du monde sont à Grenoble pour les internationaux de France. Les athlètes sont en piste depuis 15 heures. Le duo français Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, vice-champion olympique de danse sur glace, est très attendu. Moins connu, l'échirolois Kevin Emoz, 21 ans. Lui veut avant tout faire plaisir à son public. Il s'est confié au micro d'Alexandre Lepère.
Le soutien, je le sens déjà. J'ai eu beaucoup de messages sur le téléphone, plein d'amis, des autres patineurs du club de Grenoble, en me disant on sera là. C'est un avantage et un désavantage. Dans le patinage, on recherche tous plusieurs points. C'est gagner, faire plaisir, donner de l'émotion, que les juges nous donnent les meilleures notes, que les coachs soient fiers de nous. Après, c'est vraiment, j'ai pas envie de décevoir les gens. J'aime essayer de toucher le public. Je patine beaucoup avec mes émotions. C'est un peu un de mes plus gros moteurs. Quand je serai sur la glace, je serai dans mon petit cube avec mes pensées techniques. Quand je suis sur piste, j'entends seulement la voix de mes coachs et ma musique. Je pense à rien d'autre, vraiment.
Kevin Emoz au micro d'Alexandre Lepère. En tennis, la France affronte actuellement la Croatie en finale de la Coupe Davis à Lille. Et la Croatie a marqué le premier point. Jérémy Chardy a été défait par Borna Koric en 3-7, 6-2, 7-5, 6-4. Dans une demi-heure, Joe Wilfried Tsonga affronte Marin Cilic pour égaliser. Enfin en football, c'est le 117e derby d'Auvergne-Rhône-Alpes. Lyon reçoit Saint-Étienne pour la 14e journée de Ligue 1. En cas de victoire, l'une ou l'autre équipe peut monter sur le podium.
Microcité. Il est 16h40 sur Radio Campus, bientôt l'heure du débat consacré aux moyens de la justice face aux mouvements comme MeToo ou encore Balance ton porc. Mais avant ça, une petite pause musicale. Listen, babe. C'était Ain't No Mountain High Enough de Marvin Gaye. Il est 16h43 et tout de suite notre dossier.
Le dossier.
Alors pour en parler, j'accueille Xavier Ponroy. Bonjour.
Bonjour.
Alors un an après le mouvement MeToo, la justice et le droit français sont-ils adaptés aux revendications nées de ce mouvement ?
C'est beaucoup de questions qu'on va se poser aujourd'hui. Aurélia, comment mieux recueillir les plaintes ? Peut-on accélérer les procédures ? Comment prouver une agression même des années après ? Quel type de condamnation ? Comment au mieux accompagner les victimes ? Beaucoup de questions auxquelles on va tenter de répondre avec Alice Santin-Janin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du mouvement et de l'association Solidarité Femmes Milena. Avec nous également Véronique Pigeon, vous êtes avocate au barreau de Grenoble. Et vous travaillez beaucoup.
Bonjour.
Et vous travaillez sur ces questions, notamment avec l'association Stop aux violences sexuelles.
Absolument.
Première question, elle est sur l'actualité du jour, puisque l'Assemblée nationale vient de voter ce matin la possibilité de déposer plainte en ligne. On se doute que l'idée derrière cette loi, c'est le dépôt de plainte, notamment pour les victimes de violences sexuelles. Alice Santin-Janin, c'est un pas dans la bonne direction que vient de prendre l'Assemblée nationale ?
Oui, je trouve que le dépôt de plainte en ligne va quand même, je pense, simplifier la démarche de dépôt de plainte, puisque la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe aussi avant le dépôt de plainte ? Comment c'est difficile d'aller déposer cette plainte-là ? Donc toutes les démarches qui vont faire en sorte de faciliter l'accès à la plainte, c'est une bonne chose. Après, j'attends de voir dans le pratico-pratique comment ça va s'articuler.
Véronique Pigeon, c'est un bon pas ça aussi c'est...
Il faut toujours attendre de voir ce que donnent les choses dans la pratique et dans la réalité. Jusqu'à présent, les pré-dépôts de plainte, c'est juste une première prise de contact. Hein. C'est simplement, on vous donne après un rendez-vous pour que vous rencontriez quelqu'un. Donc le problème de l'accueil de la personne qui vient se plaindre d'un acte d'agression sexuelle, il restera, même si on a posé sa pré-plainte en ligne, il y a toujours la question de l'accueil.
Et alors justement, en quoi c'est compliqué pour une victime de violence sexuelle d'aller déposer plainte au commissariat ?
Ben, plusieurs choses. La première, c'est la protection de la victime. C'est que dans la plupart des cas, l'auteur est connu de la victime et il faut pouvoir mettre en œuvre des mesures de protection. Donc ces mesures de protection, nous, on les met en œuvre du coup à Solidarité Femmes Milena à travers l'hébergement principalement, qui est la mise en sécurité. Mais on ne peut pas intervenir dans toutes les situations dans une mise en sécurité. Donc la question de la peur des représailles est quand même quelque chose qui est souvent exposé par les victimes.
Donc il faudrait, dans les commissariats, mettre quoi en place ? Des lieux spécifiques pour que les femmes victimes aillent déposer plainte ?
Oui, vous savez, la réalité quand même, là, du coup, de la plainte en commissariat, c'est se retrouver dans le cadre d'un dépôt de plainte avec parfois un autre bureau à côté d'un autre officier, avec une personne qui porte plainte à côté. Donc, voilà, on n'est pas dans un espace vraiment qui favorise la parole. Donc, il y a eu quand même des améliorations, notamment faire un très bon travail aussi avec la Brigade de la Famille, qui a d'autres manière d'intervenir, mais voilà, il y a quand même un gros travail, je rejoins Maître Pigeon, il y a un gros travail sur cette notion d'accueil qui est très important, accueillir la parole.
Et vous, oui, vous allez réagir.
Oui, je réagis parce que il faut quand même pas oublier que l'agression sexuelle touche à un domaine au domaine de l'intime. Vous venez pas porter plainte parce qu'on vous a volé votre sac à main, même si c'est très traumatisant, c'est une agression, c'est de la violence. Mais là, c'est le plus intime. Donc, c'est difficile d'en parler, déjà. Et puis, en plus, il y a toute une question de sa propre culpabilité, parce que le regard de l'autre, c'est ce qu'on craint. Et on craint aussi le regard de la personne qui vous accueille. Moi, j'ai des tas de témoignages de femmes ou même de jeunes gens. Hein, je veux dire, on va pas. Mais à qui une des premières questions, c'est mais qu'est-ce que vous êtes allé faire avec ces gens-là ce soir-là ? Ou qu'est-ce que vous aviez comme robe ? Mais c'est pas de ça qu'on parle. On dit voilà, je viens, j'ai le courage de pousser votre porte. J'ai subi une agression très grave et je veux qu'on m'écoute et qu'on m'entende et pas qu'on me tout de suite qu'on pense que j'ai quelque chose à voir dans ce qui m'est arrivé.
Justement, il y a aussi cette question de récolter rapidement des preuves pour potentiellement ensuite aller devant la justice. Et je voudrais évoquer avec vous un dispositif qui est mis en place en Belgique et en Italie. Là-bas, il y a des lieux spécialisés dans les hôpitaux qui accueillent les victimes de violences sexuelles. Et les médecins, les infirmiers peuvent prélever, le cas échéant, des indices directement sur le corps de la victime pour prouver une agression. Si les victimes refusent de porter plainte, ces preuves sont conservées pendant 3 ans. Véronique Pigeon, est-ce que c'est légalement applicable ce type de procédé en France ?
Mais tout dépend. Alors, les commissariats, quand elles accueillent une victime, elles vont l'adresser à un service de médecine légale le plus rapidement possible. Hein. Donc, bien sûr, c'est tout à fait, tout est envisageable, mais il faut qu'il y ait des médecins qui soient disponibles. Il faut aussi que les femmes ou les jeunes hommes, les hommes, viennent tout de suite après les faits. Moi, c'est vrai, c'est beaucoup plus facile de prouver quand vous avez une jeune femme qui a des traces réellement de violence, bon, où on peut faire des prélèvements, mais quelqu'un qui va porter plainte plusieurs jours, plusieurs heures après. Vous savez, le premier réflexe d'une victime d'agression sexuelle, c'est de se laver. Pour faire disparaître ce qu'elle sent comme quelque chose de très fort et qui est très de preuve de violence. Voilà, alors il y a toute une éducation, je pense, aussi à faire. Et puis, c'est pas évident d'aller voir un médecin, puis de se déshabiller, puis de parler de ce qui vous est arrivé.
Vous avez le cas de clientes qui sont venues vous voir sans même avoir déposé plainte, sans même avoir entrepris la moindre démarche ?
Mais bien sûr, oui. Bien
sûr. Et donc, qui viennent vous parler ?
Oui, et puis vous savez, quand on parle avec des femmes, très vite, quand on commence à être dans le domaine de l'intime, je suis très frappée de voir le nombre de femmes qui parlent d'agressions sexuelles qu'elles ont vécues, et parfois très graves, quand elles étaient très jeunes, même moins jeunes. Moi, le dernier cas que j'ai vu, c'est une femme de 40 ans qui a été victime d'un viol au GHB. Donc voilà, c'est bien sûr, bien sûr.
Alice Saint-Agenin, je vous vois réagir.
C'est 80% à peu près des personnes qui viennent nous voir. Hein, c'est que la première démarche de dépôt de plainte n'a pas encore été entamée. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce travail d'avant le dépôt de plainte. Et donc on est là, on voit, alors nous accueillons que des femmes, mais on les voit régulièrement avant pour préparer justement ce dépôt de plainte. Alors, et du coup, les partenariats avec les avocats permettent aussi ça, de parfois faire un pas de côté, aller voir un avocat pour préparer un petit peu le terrain. Et c'est tout ce travail de préparation avec aussi, j'en profite pour dire le partenariat qu'on a aussi avec AIV, Aide Information Victime, qui est très présente aussi dans les commissariats et bureaux de police pour justement tout ce passage d'avant la plainte, quoi.
J'en profite pour rappeler un chiffre. Une femme sur 10 qui est victime de viol ou de tentative de viol, seulement une femme sur 10 dépose plainte. Mais je voudrais qu'on aille justement après la plainte cette fois, si elle a été déposée, passer devant un juge et potentiellement donc se retrouver face à son agresseur. C'est aussi ça le frein pour certaines victimes, Alice Saint-Jeanin.
Oui, oui, c'est effectivement le frein. C'est aussi... alors, je reviens juste quand même un tout petit peu avant sur la question de la plainte. C'est, par exemple, aujourd'hui, nous, ce qu'on préconiserait, c'est qu'on puisse, en tant qu'association établissement social, pouvoir accompagner, en fait, physiquement, que les travailleurs sociaux qui ont déjà entendu madame un petit peu mettre des mots sur ce qui s'est passé, accompagner physiquement sur le dépôt de plainte et pouvoir être là vraiment dans une présence accompagnante. Aujourd'hui, le dépôt de plainte ne le permet pas, et on le comprend aussi lié à la procédure du dépôt de plainte, mais c'est tout cet accompagnement-là aussi qui doit se déployer.
Je voudrais qu'on écoute Colline Bourré, qui est membre de Nous Toutes 38. C'est le mouvement qui défilera demain, notamment à Grenoble, pour manifester contre les violences faites aux femmes. Elle nous explique combien la lenteur des procédures peut aussi être un frein.
Ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que c'est très compliqué d'avoir une preuve comme quoi c'est vraiment passé. Donc en fait, il faut aussi se poser la question de quelle considération on apporte aux victimes et quelle confiance on leur donne dans l'établissement de ces procès. Aujourd'hui, si votre procès il a lieu 6 ans après la date de votre agression ou de votre viol, on vous dit « mais c'était à quelle date ?» Si vous n'êtes pas capable de ressortir la date exacte du jour où vous avez été agressé ou vous avez été violé, on vous dit que vous mentez.
Donc il est 16h52 sur Radio Campus Grenoble. Notre débat sur la justice face aux violences sexuelles se poursuit. Donc Véronique Pigeon, donc je le rappelle, vous êtes avocate au barreau de Grenoble. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une procédure spéciale dans ce type d'affaires pour accélérer justement le passage devant le juge ?
Oui, mais ce que dit notre interlocutrice, c'est pas ça. Elle dit quel est l'intérêt finalement de porter plainte 6 ans ou 10 ans après les faits et si je dis pas exactement le jour où ça s'est passé, etc. On me traite de menteuse. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que quand même, à partir du moment où on a eu accès à un juge, il y a des tas d'éléments qui font que il faut pas être aussi manichéen et aussi simpliste. Quand vous avez une jeune fille qui vient dire j'ai été violée par mon beau-père pendant X années, eh ben on fait une enquête et puis on s'aperçoit que à ce moment-là
c'est parfois dur de récolter des preuves aussi de
on trouve des preuves parce que on a vu que la jeune fille, eh ben elle est devenue boulimique ou anorexique ou elle a eu plein de problèmes à l'école ou elle s'est confiée à d'autres camarades. Et puis, il y a aussi des expertises psychologiques. Et puis, moi, je crois beaucoup au procès. Et j'ai récemment défendu une jeune femme qui, justement, avait été agressée sexuellement par son beau-père. Je vous assure, elle est restée 2h30 à la barre. Et si elle n'avait pas été là, je crois qu'il aurait peut-être été acquitté. C'était aux assises. Mais voilà, elle avait son témoignage et était vrai. Voilà.
Le temps presse déjà et je voudrais qu'on passe aussi à la question de l'accompagnement des victimes après un jugement. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour ces victimes, Alain Saint-Jeanin ? Comment on peut les accompagner après le jugement ?
Bah nous, là, c'est tout notre travail d'accompagnement social. Donc, je parlais tout à l'heure de la mise en sécurité à travers l'hébergement. On propose un accompagnement social pendant environ 18 mois pour qu'après, on puisse repartir vers un logement ordinaire. Et voilà. Et donc, tout l'accompagnement social est fait par les travailleurs sociaux sur les différentes démarches inhérentes aux problématiques financières, aux problématiques de se retrouver à un moment donné isolé et réouvrir des droits, problématiques aussi professionnelles. Donc ça, c'est tout le travail que l'on fait d'accompagnement pour...
Et vous estimez être assez soutenu dans ce travail-là ?
Alors, on est soutenu, sans doute. Alors après, ce que je peux dire quand même, hein, c'est que j'ai un œil aussi du côté du 115 de l'Isère et on a beaucoup de demandes du côté du 115 de l'Isère pour des demandes en hébergement d'urgence et dans le cadre des mises en sécurité. Donc, il y a quand même une demande qui est là aujourd'hui qui n'est pas complètement pourvue au niveau de l'offre d'hébergement qui est proposée.
Juste une dernière question, je voudrais poser à vous, Maître Pigeon. Aujourd'hui, le droit français, il est assez équipé pour faire face à toutes ces problématiques ?
À partir du moment où on a accès à un juge, oui, à partir du moment où on a accès à un juge, oui, le droit français le permet. Mais toute la question, c'est ce qu'il y a avant, parce que
c'est là qu'il peut y avoir des améliorations.
C'est très dur de se faire entendre.
Et puis la prise en charge aussi du psychotraumatisme, enfin qui est aussi importante après ces questions de violence sexuelle.
Ça sera le mot de la fin. En tout cas, merci à tous pour ce débat.
Merci à vous Aurélia, merci à nos invités Maître Pigeon
et merci à
Alice Santin-Janin.
Merci.
Je vous rends le micro Aurélia.
Alors donc c'était donc le débat préparé par Xavier Ponroy et Julien Penaud. Il est 16h55 sur Radio Campus Grenoble et c'est l'heure de notre grand format.
Microcité jusqu'à 17h.
C'est actuellement le mois de l'accessibilité à Grenoble. Jusqu'au 3 décembre, différentes animations et activités sportives sont organisées pour les personnes à mobilité réduite. L'occasion de découvrir l'association Tremplin Handisport. Créée il y a un an, elle permet à des enfants handicapés de faire du sport toute l'année tout en étant accompagnés. Luc Chelma s'est jeté à l'eau avec eux durant un cours de natation.
Des fauteuils roulants dans un pédiluve, une rencontre inattendue au bord des bassins de la piscine du Clos d'Or à Grenoble. Trois fauteuils d'où sont extraits des enfants d'une dizaine d'années, aidés par des éducateurs. Juste à côté de Mathis, lui est aveugle de naissance, il se prépare à tâter l'eau de la piscine.
Mais moi, est-ce que je peux descendre assis ?
Oui, mais si tu peux t'asseoir, mais là, tu es à l'échelle où il y a deux marches et on pose le pied gauche en premier au fond de l'eau.
Autour du bassin, huit éducateurs se démènent pour accompagner les 16 enfants. L'entrée dans l'eau est difficile, c'est toute une étape pour ces apprentis nageurs, dont les handicaps sont très différents. Marine Mounier encadre la séance. Elle est membre du comité handisport de l'ISER.
C'est handicap physique et handicap sensoriel. Donc on a un enfant qui est sourd, on a un enfant aveugle. On a aussi des personnes tétraplégiques qui peuvent utiliser aucun membre. Donc c'est vraiment de tout.
Pilotée par le département, l'association Tremplin Handisport propose depuis un an différents cycles sportifs. L'objectif, selon Marine Mounier, est de leur faire découvrir différentes pratiques, mais pas seulement.
Avec la natation, c'est prendre confiance en soi dans l'eau. Mais en général, c'est trouver comment faire avec son handicap. Après, c'est des jeunes qui l'ont depuis qu'ils sont tout petits, donc ils n'ont pas forcément de problème avec ça. Mais voilà, c'est découvrir ses possibilités avec son handicap.
Côté piscine, c'est parti pour 45 minutes de séance. Apprentissage du crawl, exercice de coordination. À chacun son programme, mais un même objectif pour tous, être autonome dans l'eau.
Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire là, Célina ? On essaye d'avancer sur le ventre.
Célina a 16 ans, une paralysie cérébrale l'empêche d'utiliser correctement certaines parties de son corps.
On essaye de faire quoi dans l'eau ? Que tu fais jamais ?
Souffler.
Voilà. Allez, on va faire demi-tour.
Pendant ce temps-là, Élodie Vincent, maître nageur, court un peu partout au bord du bassin. Habituée à travailler avec des enfants handicapés, c'est elle qui a préparé la séance.
Je me sers des exercices des valides que je transpose à mes loulous. C'est les mêmes vocabulaires, c'est les mêmes apprentissages. On va plus doucement, mais c'est les mêmes étapes que chez les valides.
La plupart des éducateurs font partie de l'Association des paralysés de France, mais il y a aussi des étudiants en STAPS, comme Arnold, une sacrée expérience pour lui.
Moi, je trouve que c'est vraiment enrichissant. Par rapport à leurs conditions, tu peux te poser des questions sur toi, sur les autres. Eux, ça leur fait vraiment une sorte de récréation. Enfin, ils sont contents de venir, ça leur change de leur cadre.
Confirmation avec Hugo, il souffre d'un handicap moteur et il a le sourire aux lèvres après une heure d'effort.
Ça me détend de nager, ça me permet de penser à autre chose que ma vie quotidienne et dire que j'ai un handicap et qu'aujourd'hui, je peux faire des longueurs. Ça, c'est vraiment chouette.
Aveugle, Mathis, 9 ans, sort lui aussi du bassin, mais c'est pour retrouver Audrey, sa maman, présente à chaque séance.
Psychologiquement, en fait, ça lui a permis de s'ouvrir aux autres, d'être confrontée à plusieurs handicaps différents et du coup de s'épanouir en fait dans le monde handicapé.
En un an, elle a vu son fils évoluer et dès l'année prochaine, elle compte bien inscrire son deuxième enfant, aveugle lui aussi. En attendant, pour Mathis, ça sera piscine jusqu'aux vacances de Noël avant d'entamer début janvier un nouveau cycle. Le bonnet de ski remplacera le bonnet de bain.
C'était un reportage de Luc Chemla. Bientôt 17h sur Radio Campus Grenoble, mais tout de suite le rappel des titres avec Léo Corcos.
Près de 5000 policiers et gendarmes seront mobilisés demain à Paris pour la manifestation des Gilets jaunes sur le Champ de Mars. Leur mission sera de sécuriser les lieux clés de la capitale, l'Élysée, la Concorde, les ministères, le Sénat et l'Assemblée. Ibrahim Mahalouf conteste sa condamnation à 4 mois de prison avec sursis. La justice l'a reconnu coupable d'agression sexuelle sur une mineure de 14 ans. S'il reconnaît un baiser, il assure que c'est l'adolescente qui a brisé la distance qu'il avait imposée. France-Croatie, finale de Coupe Davis à Lille. La Croatie mène 1-0 après la victoire de Borna Koric sur Jérémy Chardy. Joe Wilfried Tsonga entre actuellement sur le court pour défier Marin Cilic afin d'égaliser. Enfin, un mot de météo, 6 départements en vigilance orange aux orages et crues dans la nuit de vendredi à samedi. Chez nous, dans les Alpes, on attend 30 à 50 cm au-dessus de 2000 mètres cette nuit.
Microcité. Et Microcité, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission. D'ici là, vous pouvez nous réécouter en podcast sur le site www.campusgrenoble.org. Merci à tous de nous avoir écoutés et merci à Chris qui était à la réalisation de cette émission. Toute l'équipe de Microcité vous souhaite un excellent week-end.